En ce lundi 2 janvier, je reçois sur Neptune FM Bruno Nourry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Île-Dieu.
Oui.
Bruno, vous souhaitez exprimer vos vœux pour l'année 2017, on vous écoute.
Oui, traditionnellement on vient toujours sur le plateau de Neptune FM pour souhaiter nos vœux à toute la population. Bah, des vœux de bonheur, de santé, de réussite et que 2017 soit une belle année pour tout le monde.
Bruno, vous êtes le maire de Île-Dieu, on l'a dit à l'instant. Quels dossiers devront être gérés en 2017? Ils sont nombreux, non?
Oui, ils sont nombreux. Bon, l'objectif, c'est pas de faire état de tous les dossiers en cours. Néanmoins, il y a quelques dossiers importants pour la commune. C'est par exemple la construction du centre technique municipal, hein, parce que bon, suite à l'incendie, aujourd'hui, nos services sont éclatés. On est à l'état du permis de construire, donc. Bon, si tout va bien, la construction devrait démarrer cette année.
Construction à la zone de la Marèche ?
Dans la zone de la Marèche, ouais, ce qui va permettre de regrouper un peu tous les services et de pouvoir avoir une meilleure organisation. Donc ça, c'est important. On a aussi deux autres dossiers de construction. Je parle des gros dossiers concernant la commune. C'est l'extension de la mairie, parce que là aussi, on a des services un peu éclatés. Donc on souhaite recentrer... tout le monde, et puis il y a aussi le dossier de la bibliothèque municipale, parce que pour le moment elle est positionnée dans l'école du Ponant, mais l'idée c'est de faire une vraie bibliothèque, parce que bon, après il y a des normes en termes de surface, etc.
Où en est ce dossier de la bibliothèque?
Pour le moment, on étudie les lieux potentiels. Oui, c'est vraiment un projet, bien sûr, hein, parce qu'on s'était engagé dans la campagne municipale pour mener à bien ce projet, donc on le suit de très près.
Quels lieux sont à l'étude?
Plusieurs lieux, oh, je ne veux pas les dévoiler, parce que bon, on étudie plutôt de la faisabilité d'implantation.
Mais plutôt dans le port, non?
Oui, plutôt dans le port. Oui. Par ailleurs, bon, il y a l'extension de la mairie. Bon, là, on va avoir beaucoup de subventions, parce que comme on est estampillé territoire... TEPCV, territoire d'énergie positive pour la croissance verte.
Merci beaucoup.
On parle souvent avec des cycles, donc c'est bien de rappeler ce que ça veut dire. Mais on fait partie de ces 200 territoires en France qui bénéficient de subventions supplémentaires pour...
assez conséquentes en plus, non?
Oui, assez conséquentes, parce qu'on a... On a signé deux conventions. Alors, au départ, c'était une enveloppe de 500 000, donc on a signé une première convention. On en a une deuxième de 500 000 euros aussi, donc ça, c'est important. Et il y a une troisième enveloppe là, qui est à l'étude. Alors, on ne sait pas si on va l'avoir ou pas, qui est d'un million d'euros, donc c'est pas rien, quoi.
Un million d'euros, pour quoi faire?
Différentes choses qui sont en lien avec la transition énergétique. Donc, ça va de la rénovation de bâtiments à... Aussi, on réfléchit à faire l'acquisition d'un bus électrique, par exemple. Il y a des...
Le bus électrique, c'est dans les projets?
C'est dans les projets, oui. Et, alors, électrique ou d'autres formes d'énergie, mais un véhicule propre, on va dire. Donc, tout ça, en fait, ces subventions nous permettent de mener à bien ces projets. Alors, par ailleurs...
La mairie, on y revient?
Oui, il y a la mairie, donc là aussi, sur ce type de dossier... Habituellement, on n'est pas subventionné. Là, on va être subventionné en fait pour faire de l'isolation, l'extension. Donc, ce qui permettra d'avoir un coût très raisonnable pour réhabiliter ce bâtiment.
Pour la mairie, c'est un petit peu le même principe que pour les particuliers.
Oui, c'est un peu le même principe. Oui. Alors après, il y a un autre dossier qui est passé, mais qui va quand même un peu changer la donne au niveau municipal.
Pour 2017.
Pour 2017 et les années suivantes, c'est qu'on a obtenu enfin, si j'ose dire, une enveloppe dédiée sur la DGF, la dotation globale de fonctionnement pour la commune de Île-Dieu. Je m'explique, parce que c'est important, c'est pas anodin.
J'allais vous poser la question.
Ouais, c'est pas anodin. Il y a 7 ou 8 ans de ça, enfin, il y a même un peu plus, on se disait, bah, c'est pas très juste que la commune de Île-Dieu, la dotation de l'État qui lui est versée, ne tienne pas compte de l'insularité.
Les baisses de l'État, enfin, les subventions de l'État baissaient.
Ouais,
pour faire simple.
Ça, pour faire simple, mais je remonte pas mal en arrière. Même sans le fait qu'elle baisse, on ne trouvait pas juste qu'on ait la même même façon de calculer l'enveloppe que des communes continentales. Mmh. Parce que derrière, nous, tout ce qu'on va investir, c'est plus cher que sur le continent, etc. Et finalement, quand l'État versait 1 euro à Lisieux, ben nous, on n'avait pas le même pouvoir d'achat qu'un euro versé, par exemple, à la Barre de Mont.
Car Lisieux coûte plus cher.
Car Lisieux coûte plus cher pour la commune. Donc là-dessus, à l'époque, c'était avec Xavier Perrin, qui était DGS de la commune de l'époque. On avait beaucoup œuvré auprès des îles du Ponant pour qu'une étude soit faite sur cette dotation de l'État pour les communes insulaires. Donc on s'est appuyé sur un cabinet de consultants qui est basé à Rennes, dirigé par Yann Lemeur, qui est l'un des 10 spécialistes en France de ces questions de DGF, parce qu'elles sont très 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 complexes. Alors dans un premier temps, bon, il a fallu étudier ces dotations dans ces communes insulaires, faire un rendu d'étude. On avait pris le parti de déposer des amendements en loi des finances pour corriger certains critères, comme l'ont fait la montagne, et ils ont déjà, par exemple, sur de la voirie, parce que la longueur de voirie, c'est un des critères de cette enveloppe de DGF. Donc nous, on dit, bah, la voirie, voilà, on va mettre un coefficient x3, parce qu'elle nous coûte 3 fois plus cher, etc. Mm-hmm. Donc cet amendement avait été retenu, mais tous les autres, parce qu'il y en avait d'autres, étaient passés à la trappe pour de sombres motifs politiques dont je ne vais pas faire état ici.
Vous pouvez y aller, allez-y. Hein.
Ouais, non, mais... Voilà. Non, mais derrière, c'est indépendant d'affaires de droite ou de gauche, mais on avait certains parlementaires, plutôt en Bretagne d'ailleurs, qui avaient fait le choix de se servir de ça pour obtenir d'autres choses. Donc j'avais pas tellement apprécié l'affaire. Néanmoins, depuis, on a fait une étude complémentaire avec Yann Hummer pour objectiver le surcoût. C'est-à-dire, c'est quoi le surcoût pour les communes insulaires?
Alors c'est quoi le surcoût?
Oui, ils sont de deux types. Il y a des surcoûts en fonctionnement. Hein, c'est quand on envoie des agents sur le continent, il y a des nuits d'hôtel, quand on chauffe dans les écoles ou à la mairie, le gasoil coûte plus cher, c'est l'essence qui coûte plus cher, c'est etc., etc. Ça, c'est en fonctionnement. Et après, on a aussi en investissement, ben, quand on construit, ben, c'est plus cher que sur le continent, etc. Donc, pour les 14 communes insulaires, le surcoût a été chiffré, hein, et objectivé, sur facture, etc., à 2 millions d'euros en fonctionnement et 2 millions d'euros en investissement par an pour les 14 communes insulaires.
Ce qui fait 4 millions.
Ce qui fait 4 millions. Donc, on s'est dit, ben, plutôt que faire des amendements, ce qui était pourtant plus simple, de corriger les critères d'attribution de la DGF, on va demander une enveloppe dédiée. Mmh. Ce qu'a la Corse, ce qu'a... Et bon, je crois que chaque maire des îles a fait son travail de lobbying, hein, nous aussi de notre côté, on a fait jouer les relations, etc. Si bien qu'à l'arrivée, cet amendement a été porté par le gouvernement, a été retenu, donc c'est une dotation supplémentaire de 4 millions d'euros pour l'ensemble des îles par an.
Commune.
Pour les communes insulaires.
Pour les communes insulaires, dont Lisieux.
Dont Lisieux. Et comme Lisieux, cette enveloppe est répartie au prorata de la population dite DGF, pour Lisieux, c'est 1 200 000 euros par an.
Donc, plus.
De plus. Donc c'est vraiment une belle victoire. Parce que tu le disais tout à l'heure, en attendant, la DGF, elle a diminué de 500 000 euros ces 3 dernières années. Donc il a fallu serrer. Elle serre les boulons un peu partout. Bon, ça se fait pas sans mal, on va dire, hein, voilà. Et puis ce million d'euros, j'ai envie de dire, il est là pour rétablir une justice, une équité entre les communes insulaires et les communes
du continent.
C'est-à-dire que c'est comme si jusqu'à maintenant on avait joué avec 1 million d'euros en moins tous les ans. C'est bien ce qui s'est passé.
En gros, la commune de Lisieux perdait 1 million d'euros.
Sur son fonctionnement et sur ses investissements, les surcoûts étaient d'1 million d'euros par an. Quoi. Mmh. Hein, c'est ça. Et donc, cette enveloppe est destinée à les couvrir. Alors, maintenant, on peut se dire, oh, chouette, la commune de Lisieux a 1 million d'euros de plus pour fonctionner par an.
Allez, pas les particuliers.
On peut y aller. Non,
non mais pourquoi pas pour les, aussi pour les particuliers. Non, est-ce que ça serait jouable?
Non. C'est une dotation de l'État pour les communes. Mm-hmm. Hein, c'est la DGF.
Oui, on a bien compris.
C'est la DGF.
Et, non, mais je faisais la question, précisément... est-ce que pour les particuliers, non. ça pourrait être jouable? Parce que
non,
le surcoût aussi
non,
de l'insularité,
non. Il ne ferait pas. Mais c'était les communes, comme toutes les communes de France, disposent d'une DGF. C'était d'amender cette DGF pour qu'elle soit équilibrée par rapport aux communes continentales. Maintenant, je le dis ici, ce n'est pas parce qu'on a plus de moyens pour fonctionner et surtout investir que ça va être open bar. Hein. Mmh. Il faut continuer à avoir une gestion sérieuse, rigoureuse, ça c'est important. Néanmoins, ça va nous donner un petit peu plus d'air pour pouvoir financer plus facilement nos investissements. On évoquait la mairie tout à l'heure, le CTM, etc., et d'autres projets à bibliothèque. Donc ça va nous permettre de donner un peu d'air, d'avoir un peu moins recours à l'emprunt et donc de redonner de l'air aux finances communales. Donc ça, je redis parce que moi ça fait ça fait 8 ans que je suis ce dossier, que je le porte
8
à bout de bras. Ouais, parce que il a fallu convaincre le maire des autres îles où il y avait un vrai combat à mener, etc. Aujourd'hui, c'est acté. On a cette dotation complémentaire tous les ans, et je crois que c'est une vraie victoire. C'est une belle reconnaissance aussi pour l'association des îles du Ponant. Des fois, on se demande, oui, c'est quoi ça sert, à quoi ça sert. Eh ben, c'est associé. Il y a le festival des insulaires, mais il y a aussi ce travail de fond qui est fait, qui est pas fait seulement avec la région Bretagne, mais là avec l'État français, qui a permis d'avoir cette dotation supplémentaire. Donc, ça montre bien l'utilité de travailler ensemble.
Cette dotation de l'État supplémentaire, c'est juste pour 2017 ou il faudra renégocier pour 2018-2019?
Elle est inscrite dans le marbre. Et celle-ci n'est pas, comme elle est inscrite dans le marbre, elle n'est pas sujette à diminution dans les années qui viennent.
Donc, plutôt augmentation, là.
Non, elle est figée dans le marbre. Elle est figée dans le marbre. Alors peut-être que dans 20 ans, il faudra aller toquer à la porte pour dire avec le coût de la vie augmenté. Donc, c'est une belle victoire et puis ça va vraiment permettre de mieux fonctionner sur la commune, de moins bricoler, parce que c'était complexe. Hein. On jouait avec quand même pas beaucoup de moyens, donc là, vraiment, ça nous donne de l'air. Ouais.
Les autres dossiers ?
Les autres dossiers, y en a plusieurs.
La criée, par exemple ?
La criée, alors ça dépend pas directement de la commune,
mairie.
Mais bon, moi je sais que ça...
Mais vous suivez le dossier.
Ouais, je suis
en tant que maire de l'Île-Dieu.
Oui, en tant que maire, puis comme je suis directeur du Vieux-Marais, bon, mm-hmm. voilà, j'ai un peu le nez dedans. Bon, on a...
mutation de l'activité.
Ouais, mutation de l'activité, parce que, bon, qu'elle y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est l'érosion du nombre de bateaux dans le port. Petit à petit, il y a moins de bateaux, donc moins d'apports sous la criée. Donc, il y a un moment donné, on voyait bien qu'on allait coincer. Et par ailleurs, il y a eu le maxiplon qui est rentré en flotte, qui rapatrie du poisson vers les Sables d'Olonne, bon, qui a un peu pillé ce qu'il y avait sous la criée. Maintenant,
il a accéléré les choses, on peut dire ça comme ça.
Oui, il a joué peut-être le rôle d'accélérateur, ceci dit.
C'est un bien ou c'est un mal pour l'île-Dieu ?
Alors j'ai bien, si c'était pas arrivé aujourd'hui sur le maxiplomb, peut-être que dans 2 ou 3 ans on aurait été dans la même situation. Maintenant, c'est un mal pour un bien pour un mal, je sais pas exactement. Toujours est-il, c'est qu'il y a énormément de poissons qui transitent sous la criée de l'île-Dieu, puisqu'il y a ce transfert vers les Sables d'Olonne. Maintenant, l'idée c'était de changer le système de vente, parce que ce que veut le producteur, c'est avoir une garantie sur ses prix. Donc plutôt que le mettre à l'enchère, et puis ça fait 1 euro de moins qu'au sable, machin, et puis c'est toujours le bazar dès que c'est moins cher qu'au sable.
Ce qui est logique.
Ce qui est logique, oui, des fois c'est plus cher, des fois c'est moins cher, mais la lotte est plus chère au sable, plus chère à l'île-Dieu, il faut le dire quand même, hein, le marché de la lotte, c'est l'île-Dieu. Mais sur des produits comme le merlu, il y a des prix de marché, ils font à peu près le même prix, néanmoins, sur... de la sole, il peut y avoir des petits écarts de prix, etc. Enfin bref, toujours est-il, c'est qu'il y a ce poisson qui transite sous la criée de l'île-Dieu, où les mareyeurs, en fait, quand le cours de l'île-Dieu est faible, c'est pas parce que le mareyeur paye pas cher, c'est qu'à un moment donné, il y en a qu'un qui appuie sur le bouton, parce que c'est lui qui est plutôt enclin à faire ce type de produit.
Qui est plutôt acheteur.
Il aurait pu l'acheter plus cher, mais il faut être deux pour faire un cours. Donc, on n'était plus que cinq marailleurs. C'est difficile, des fois, d'établir des cours. Donc, ce qui a été convenu, c'est qu'on ne fasse plus cette vente à l'enchère, qu'on permette aux marailleurs de l'île-Dieu de prendre sur ce qui passe sous la criée et de l'acheter au prix moyen de la criée des sables du lendemain, au Sable d'Olonne. Ce sera là que se situera l'index des prix. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas tellement attaché à ce qu'on garde un index de prix, qu'on définisse un index de prix sous l'île-Dieu. Ce qui est important, c'est qu'on puisse travailler, que le marraillage continue à travailler sur l'île-Dieu. Donc, en faisant comme ça, ça met une garantie aux producteurs. Bon, c'est un peu plus compliqué pour les marailleurs, hein, parce qu'ils vont acheter en amont et sans savoir le prix du lendemain. Donc, voilà, c'est un peu plus complexe.
C'est un petit peu plus de risque pour le marailleur.
C'est un peu plus de risque. En sachant qu'ils prenaient déjà, quand on a le bateau à 18h le soir, il y a plein de destinations qu'on ne fait pas. Donc, on achetait déjà un petit peu à l'aveugle, quoi. Donc, voilà. C'est une mutation, il va y avoir une période de flottement, de mise en place. Néanmoins, c'était peut-être pour moi la seule option viable pour qu'on ne ferme pas la criée. Parce que c'est ça le but, hein, la finalité.
Tous les marailleurs sont d'accord avec cette option ?
Non,
c'est même pas une option d'ailleurs.
Non, mais ça change beaucoup de choses. Maintenant, moi, je ne suis pas dans la gestion d'entreprise des uns et des autres. Hein. Bon, il y a beaucoup de marailleurs qui sont présents dans d'autres ports, qui ont fait, qui feront d'autres choix. Voilà. Ceci dit, ces choix-là, ils les auraient peut-être faits dans deux ou trois ans, etc. Bon.
Il y aura des postes qui vont sauter à la criée ou pas du tout, vous savez pas
pour l'instant. À la criée, ils se sont réadaptés, donc je crois pas qu'il y ait eu vraiment de licenciement. Maintenant, dans les entreprises de marraillage, si le marailleur dit bah non, moi finalement, j'achète plus à l'île-Dieu, j'irai au sable.
J'achète au sable, par exemple.
Voilà. Et il y a un peu ce qu'elle a quand même, quoi.
C'est un petit peu encore le flou, on peut dire
c'est
ça comme ça.
C'est un petit peu encore le flou, ouais. Ouais, ouais.
Autre sujet, les stations de Port-Joinville. Où en est le dossier ?
Alors, le dossier, il est en attente de passer en enquête publique. C'est à ce moment-là qu'il y aura le vrai débat, hein, on est bien d'accord. Et on avait.
Cette enquête publique aura lieu quand ?
Je ne sais pas encore, vraisemblablement, je ne sais pas si elle aura lieu en avril ou l'été prochain, en tout cas courant 2017, parce qu'on avait des études complémentaires de prise de son, enfin de bruit à faire, etc. Donc le dossier avait un besoin encore de ces éléments-là. On est en passe de finir de le compléter, donc après il y a un traitement en préfecture, on va dire dans quelques mois il sera en enquête publique.
Alors, l'hésitation restera à Port-Joinville ou ira ?
Il y aura débat.
Il y aura débat ?
Il y aura débat. L'enquête publique sert à ça. C'est pas à moi de dire aujourd'hui, ça restera pas. On débattra et à l'issue de cette enquête publique, on prendra une décision. Mais aujourd'hui, c'est prématuré de dire ce qui va se passer.
Des débats houleux à venir, non ?
Peut-être, sûrement. Sûrement, bon, je crois que c'est important que chacun s'exprime et puis qu'on trouve le meilleur compromis pour l'île. Je crois que même si les débats seront tendus, etc., il faut arriver à trouver ce meilleur compromis.
Et le compromis sera vraiment connu quand ?
À l'issue de l'enquête publique.
Et l'enquête publique sera finalisée quand ? Est-ce qu'on aura une
L'enquête publique, je pense que la préfecture sera tentée de faire une enquête publique un peu longue, peut-être un mois et demi. Nous, le conseil municipal, on prendra position. Hein, et à cette issue d'enquête publique,
Et à ce jour, quelle est votre position ?
La position, moi je le dis au conseil, parce que des fois ça vient sur le tapis.
C'est pour ça que je vous en parle.
Ouais. On ne peut pas débattre sans avoir tous les éléments techniques. Hein. On ne peut pas dire je veux que ça reste là, ouais, je veux que ça parte, sans savoir si dans quelles conditions il resterait là, dans quelles conditions il partirait. Il faut des éléments techniques derrière. C'est-à-dire que, de toute façon, si les licitations restaient au port, elles ne seraient pas dans son format actuel. Mm-hmm. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui qui change et qu'il faut pouvoir apprécier pour donner un avis éclairé. Parce que sinon, on débat dans le vide si on n'a pas les éléments techniques.
Restauration scolaire, du changement aussi pour 2017.
Oui, du changement dès aujourd'hui, puisque on a modifié quelque peu la restauration scolaire, notamment pour les plus petits. Donc il y aura un réfectoire au sein de l'école du Ponant pour le public maternel. Les primaires continueront d'aller au collège à côté. Et pour le privé, en fait, on avait le réfectoire de Saint-Sauveur, de l'ancienne école de Saint-Sauveur. On amenait les enfants manger là-bas tous les jours, ce qui était un peu compliqué, ce qui nous coûtait aussi un peu d'argent en termes de logistique. Donc là, on avait vu avec la direction de l'école privée pour que... ils étaient d'accord qu'un réfectoire puisse se faire au sein de l'école privée. Donc on livrera les repas là-bas, donc les élèves bougeront.
Les élèves resteront à l'école privée.
Les élèves resteront à l'école privée.
C'est plus simple tout de même.
C'est plus simple
en termes de logistique, surtout
pour les enfants. Alors, en termes de logistique, et puis à Ponant, ça va permettre aussi d'accueillir les tout-petits qui n'étaient pas forcément dans de bonnes conditions quand on les accueillait au collège, qui n'étaient pas formatés pour eux.
Donc ça faisait un petit peu trop de bruit, on peut dire ouais. C'est comme ça.
Alors je voudrais rappeler même quelque chose, et je crois que c'est important de le dire, les communes en France ont en charge la cantine des écoles publiques. Les communes ne sont pas obligées de s'occuper de la cantine des écoles privées. Je crois qu'à Lille-Dieu, toutes les municipalités qui se sont succédées ont toujours pris en compte les deux écoles.
Pour l'équité,
Pour l'équité, oui. Mais ce n'est pas une obligation. Il y a très peu de communes en France qui le font. Je crois qu'il n'y en a même pas une en Vendée qui organise la cantine des écoles privées. Hein, je tiens à le préciser. Donc, nous, on considère que les enfants, qu'ils soient au public ou au privé, sont des enfants et on fait manger les enfants de la commune. Mmh. Et donc, ces nouveaux réfectoires vont permettre d'améliorer l'accueil des enfants, de tous les enfants. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on ne fait pas de différence là-dessus.
Aménagement de la pointe du But, c'est aussi un vaste projet pour la commune de Lille-Dieu.
Oui, c'est un projet important, un peu emblématique, parce que cette pointe, c'est un lieu chargé d'histoire. Là, c'est le point le plus à l'ouest de Lille. Et elle était très piétinée, très. On avait commencé il y a quelques années à faire un petit parking en retrait, puis. Là, l'idée, c'est de pouvoir restaurer, réhabiliter un certain nombre d'éléments. Alors, c'est un dossier qui est important, comme on est dans le site classé, qui doit passer en commission des sites, etc. Donc, qui demande un plan d'aménagement avec architecte. Alors, ça paraît complexe pour dire, pour mettre quelques petits aménagements. Il faut faire
ça. Mais c'est obligatoire.
C'est obligatoire et je crois que c'est important de redonner toute cette lettre de noblesse, toute sa beauté à cette pointe. Et puis,
alors concrètement, qu'est-ce qui va changer à cette pointe ?
Il y a des réhabilitations, des ruines là, qui sont autour, de pouvoir les mettre en valeur, de les sécuriser aussi. On va aussi aménager à l'intérieur de la corne de brume un espace... je ne vais pas dire muséographique, mais un espace dédié sur les naufrages qui ont lieu autour de la pointe.
Ça servira d'exposition, non ? Ouais, par exemple.
Oui, lieu d'exposition. Mmh. Et on souhaite aussi faire une table d'orientation sur une des anciennes batteries pour montrer où sont les épaves, enfin de donner un côté un petit peu ludique. Puis après, c'est de canaliser les cheminements, etc. Enfin, des choses assez classiques, finalement.
Les travaux vont commencer quand ?
Dès qu'on aura la validation par la commission des sites, donc je pense que ce sera au printemps.
Bruno Nourry, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir ?
Non, je rappelais tout à l'heure notre affaire de DGF, c'est un peu des étrennes là aussi, mais vraiment, sincèrement, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la commune, donc pour tous les habitants, parce que on va pouvoir... mieux aménager nos services, etc. Et donc avoir de l'air sur nos finances communales, c'est important pour qu'on puisse continuer d'investir, de bâtir l'avenir, l'avenir de l'île, c'est important. Donc voilà, je voulais souhaiter à tous une très belle année 2017 et qu'elle soit propice à tous les projets des uns et des autres.
Ça sera le mot de la fin. Merci Bruno Nourry, à très bientôt.
Merci, au revoir.